SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Bonjour Michel Barnier, nous sommes ravis de vous avoir sur les ondes de SBS French.
Bonjour et merci à tous les auditeurs de SBS French d'écouter ce moment de dialogue.
Alors je le rappelle, vous avez été député européen, plusieurs fois ministre, commissaire européen et négociateur en chef pour le compte de l'Union européenne dans le cadre du Brexit. C'est la raison qui vous amène actuellement à être en Australie. Vous avez été invité par l'Université du Queensland pour partager cette expérience. Sur ces négociations, on sait qu'elles ont été longues, qu'elles ont été âpres, qu'elles ont été aussi tributaires des remous de la politique interne britannique. Vous avez dit que vous avez eu affaire à plusieurs chefs de gouvernement et à plusieurs négociateurs différents. Quel a été le point le plus délicat à négocier, sachant qu'il y a évidemment des centaines de paramètres qui sont rentrés en compte?
D'abord, il est exact que cette négociation était très complexe, très longue, et c'était normal parce que on a mis fin, malheureusement, à 45 années de coopération avec le Royaume-Uni, d'intégration. Le Royaume-Uni avait voulu adhérer à la communauté européenne économique pour des raisons de commerce, d'économie, en 73, et finalement ils ont quitté, ce que je ne comprends toujours pas, contre leur propre intérêt, ce marché unique qui était si important pour eux. Mais au total, c'est près de 600 accords internationaux qu'on a détricotés durant cette négociation. Donc c'était très complexe. Le sujet le plus sensible et le plus grave pour moi, il n'est pas lié au commerce, il n'est pas lié à la technique ou à l'argent, il est lié aux hommes et aux femmes en Irlande, la paix en Irlande. Parce que dans les conséquences du Brexit que personne n'avait expliqué aux Britanniques avant de voter, il y avait les conséquences concrètes pour une partie de l'île d'Irlande, l'Irlande du Nord, qui est partie du Royaume-Uni, qui est toujours membre du Royaume-Uni, et c'est de quitter le marché commun et donc de créer un problème lié aux frontières que nous devons créer, nous, partout, pour contrôler les produits qui rentrent dans l'Union européenne. Donc on a eu... Et là, c'était impossible de le faire avec une nouvelle frontière sur l'île, parce que c'était la condition de la paix, de pas avoir de frontière. Donc ça, c'était le plus grand sujet.
Alors, le Royaume-Uni, pendant les près de 50 ans au cours desquels elle a fait partie de la communauté puis de l'Union européenne, a toujours été... sans doute le membre le plus turbulent au sein de cette Union. Paradoxalement, est-ce que l'Union européenne est plus forte, plus efficace maintenant que les Anglais sont partis?
Non, je ne le crois pas. Je pense que le Brexit reste, comme on dit en anglais, « lose-lose game ». C'est un accord perdant-perdant, parce que c'est un affaiblissement des deux côtés. Nous avons perdu un membre important, parfois turbulent, indépendant, qui avait sa propre idée, pas toujours la même que la nôtre, de l'avenir de l'Europe. Ils étaient plus dans une idée économique et nous dans une idée économique et politique. Mais c'était important qu'ils soient avec nous. Et eux, maintenant, ils sont tout seuls, dans le grand large, ce qui était parfois leur habitude dans l'histoire, mais on n'est plus au même moment. Nous sommes dans un monde où les grands enjeux, les grands pays, personne ne nous attend, il y a beaucoup de risques et je pense qu'il vaut mieux aborder et affronter ces challenges, ces grands risques, le terrorisme, le changement climatique. Il y a tellement de sujets où on ne peut pas affronter tout seul les problèmes. Donc il vaut mieux être ensemble. Je pense qu'ils sont plus faibles parce qu'ils sont seuls et nous sommes plus faibles parce que nous les avons perdus. Voilà le résultat d'aujourd'hui.
Depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, il se rend compte que c'était peut-être pas une très bonne idée sur le plan économique. On a un phénomène qu'on appelle le regret en Angleterre, le regret d'avoir quitté l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que cette expérience a priori pour l'instant pas très positive, a pu décourager d'autres pays, d'autres dirigeants politiques de vouloir suivre le même chemin.
C'est vrai qu'on n'entend plus depuis 3 ou 4 ans d'autres responsables de le far right, de la droite radicale, de l'extrême droite, revendiquer la sortie de leur pays, ni Mme Le Pen en France, ni même M. Salvini en Italie ou M. Geert Wilders aux Pays-Bas, mais je pense qu'ils n'ont pas changé d'opinion. Donc il faut faire attention. Le Brexit a eu cette vertu pédagogique, puisqu'on avait fait un débat, une négociation transparente, un débat public permanent. Personne n'était surpris. Tout le monde a vu ce qui se passait. Moi, j'ai été très attentif à parler de tout à tout le monde en même temps, dans tous les pays. Et donc, ça a une valeur pédagogique. On voit aujourd'hui les difficultés du Royaume-Uni. Elles ne sont pas toutes liées au Brexit, pour être sincère. Mais toutes ces difficultés sont plus graves à cause du Brexit. Parce qu'on a recréé des barrières entre eux et nous. Ça, c'est la conséquence du Brexit.
Dites-moi si je me trompe, actuellement, 9 pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, parmi lesquels l'Ukraine, mais beaucoup aussi de pays de la région des Balkans. Est-ce que l'entrée d'un ou de plusieurs nouveaux membres dans l'UE vous semble possible dans un avenir proche?
Ces négociations ont été ouvertes avec plusieurs pays, parfois depuis longtemps, pour certains pays des Balkans occidentaux, d'autres plus récentes, comme avec l'Ukraine ou la Moldavie. Oui, ces pays ont une vocation à être dans l'Union européenne. C'est la promesse qu'on a faite à ces peuples qui veulent adopter notre système de valeurs, de démocratie, de liberté, malgré les pressions russes juste à côté d'eux. Et donc, oui, ces pays ont une vocation. Maintenant, c'est compliqué de quitter l'Union européenne, c'est très complexe, c'est un choc. C'est aussi compliqué d'y entrer. Ça peut être un choc si on n'est pas préparé. Donc il faut que nous nous préparions et qu'eux se préparent. Donc on a des négociations qui continuent, qui s'amplifient. On a des accords d'association, comme avec l'Ukraine, qui sont importants. On les aide pendant ce temps-là et on se prépare. Mais il faut prendre le temps, il ne faut pas qu'il y ait de raccourcis. Parce qu'un raccourci serait une erreur pour eux et pour nous.
Un dernier point, il y a des élections européennes qui approchent et les défenseurs de l'Europe ont fait valoir que c'est parce qu'on est 27 qu'on a pu mener par exemple une stratégie efficace d'acquisition de vaccins pendant la pandémie de Covid, qu'on a pu se mettre d'accord sur comment aider l'Ukraine. Et pourtant, l'extrême droite et les eurosceptiques de manière générale sont donnés gagnants, pas seulement en France mais sur tout le continent. Comment vous voyez tout ça?
D'abord, je pense que le pire n'est jamais sûr. On ne peut pas écrire le résultat des élections avant qu'elles ne soient produites. La campagne commence tout juste. Je pense qu'une campagne, c'est une campagne d'explication, de débat public, pour montrer les mensonges, comme on l'a vu pour le Brexit, les approximations, les simplifications. L'absence aussi de beaucoup de leaders d'extrême droite à Strasbourg, à Bruxelles, où on ne les a pas beaucoup vus. Donc, il faut donner du temps à la démocratie pendant cette campagne. Depuis le Brexit, d'ailleurs, les Européens ont commencé à réagir en contrôlant mieux leurs frontières, mais ce n'est pas encore parfait, en investissant davantage par des emprunts communs, comme on l'a fait après le Covid, par moins de naïveté dans nos échanges commerciaux pour protéger nos productions industrielles ou agricoles. Donc on commence à réagir et à répondre à ces préoccupations des gens, parce que c'est ça qui est le plus important. De quoi se nourrit le populisme? Il se nourrit d'une vraie inquiétude sociale, d'une vraie angoisse sociale qui existe. Et donc, moi, je ne confonds pas le sentiment populaire, cette angoisse sociale, avec le populisme. Il faut comprendre, écouter les raisons du peuple, des peuples, et leur répondre. C'est ce qu'on commence à faire, mais ça prend du temps. Est-ce qu'on arrivera à le démontrer avant les élections européennes? C'est difficile, mais on va commencer à le faire.
Merci beaucoup, Michel Barnier.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.